RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Nous sommes de retour depuis hier en direct, bien sûr, avec vous, en direct à la radio RMC, à la télé RMC Story, le canal 23 de la TNT. Et en direct avec vous, ça veut dire que le 32-16 est toujours à votre disposition pour prendre la parole. Bonjour Joëlle Dagosséry, madame la coach de vie.
Bonjour à tous.
Tu as pris tes vacances ou pas encore?
Je suis restée à Paris, j'ai pris une petite semaine en Vendée, puis je suis restée à Paris. Voilà.
Et tu repars Covid. Bientôt?
Non, en hiver à mon avis.
Hein. Mais tu reviendras.
Oui, bien
moment,
sûr.
Pour le moment, tu reviens. Monsieur Didier Giraud est avec nous, l'agriculteur de Saône-et-Loire, qui va avoir beaucoup de choses à nous dire dans quelques minutes. Bonjour Didier.
Bonjour à la France profonde.
Alors vous avez vu qu'il a plus ses lunettes sur le bout de son nez. Tu as vu Antoine dire bonjour, monsieur le consultant juridique.
Salut Alain, bonjour
vous,
à tous.
Vous avez vu, parce que Didier, pour ceux qui le connaissent depuis toutes ces années, c'est notre agriculteur avec les lunettes sur le bout du nez, puis il est comme ça et il pousse ses coups de gueule. Et alors là, il vieillit lui aussi. On se voit vieillir dans les GG. Bah,
ouais.
Et il a des lunettes à verre progressif. Alors tout à l'heure, il dit bah, j'arrive pas à m'y habituer au verre progressif.
Ça fait un peu comme si tu faisais du bateau les premiers jours.
Après ça, on s'y fait. De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Beaucoup de sujets qui vont vous faire réagir au 32-16. De l'Espagne qui est sur le qui-vive avec de nouveaux appels à passer dans l'enclave de Ceuta. Les piscines privées, des permis de construire qui sont de plus en plus refusés. Gérald Darmanin contre la police. Hier, on vous parlait de la lettre. On va parler du courroux, de la colère de la police contre Gérald Darmanin. Il y a des appels à démissionner pour Gérald Darmanin. Est-ce que ce serait la moindre des choses après ce qu'il a dit sur la police? Vous venez en parler bien sûr avec nous au 32-16. On va d'abord s'intéresser au dérèglement climatique entre guillemets. On va s'intéresser à la sécheresse et les pertes qu'elle cause pour les agriculteurs. Le président de la FNSEA, le principal syndical agricole, réclame des milliards d'euros, c'est lui qui le dit, hein, des milliards d'euros dans le cadre d'un choc de réactivité pour aider les agriculteurs. Est-ce qu'il faut donner ces milliards d'euros aux agriculteurs pour les aider? 32-16 pour en parler avec les GG. On écoute le patron de la FNSEA.
Pour les fermes françaises, la situation va être absolument critique et nous avons besoin maintenant d'un certain nombre de réponses, parce que si nous voulons continuer à produire, il faudra aussi que la solidarité nationale puisse se mettre en place. Madame Genevard a annoncé un grand plan. On parle de plusieurs milliards d'euros. On sait que ces montants sont inédits et s'il existe un certain nombre d'assurances, on sait parfaitement qu'elles ne pourront pas prendre en compte un tel niveau de sinistralité.
C'est intéressant ce que dit Arnaud Rousseau, parce qu'il dit si on se tourne vers les assurances, elles pourront pas tout prendre en charge. Il en appelle à la solidarité. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin pour les plus âgés d'entre nous,
sécheresse.
Voilà. En 1976, il y avait eu un impôt sécheresse. Mm-hmm. C'est-à-dire il y avait un petit prélèvement qui était fait sur l'impôt sur le revenu et d'autres taxes pour aider à passer cet épisode de sécheresse qui avait été terrible. Donc est-ce qu'il faut faire un impôt agriculteur? Est-ce qu'il faut donner des milliards d'euros de solidarité aux agriculteurs? 32-16 pour en parler avec les G. Avant d'écouter le spécialiste, déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Joël?
Alors, moi, quand j'entends solidarité nationale, pour moi, la solidarité nationale, elle doit s'exercer, par exemple, sur des personnes qui n'ont plus d'emploi, sur le handicap, sur vraiment des incapacités complètes ou en tout cas partielles et structurelles à pouvoir gagner sa vie. Donc ça, déjà, c'est comme ça que j'entends la solidarité nationale. Et deuxièmement, si elle doit s'exercer sur des personnes comme les agriculteurs ou d'autres professions qui, eux, ont un outil de travail, qui, eux, produisent de la richesse, créent des choses, à ce moment-là, ça doit être sur des problèmes circonstanciels. Le problème de l'agriculture en France, c'est que on a des problèmes structurels. Donc, moi, je veux bien qu'on crée encore une nouvelle taxe ou des milliards déversés là parce qu'il y a une crise climatique, etc. Sauf que c'est ad vitam aeternam. Je veux dire,
les agriculteurs,
les
agriculteurs donnant.
Les agriculteurs,
vous changez votre mode d'agriculture et puis on vous aide.
Non, l'État doit laisser les agriculteurs travailler, doit arrêter les surnormer, de les bureaucratiser, d'en faire des fonctionnaires, de leur donner des moyens. Moi, j'imagine que pour lutter contre la crise climatique, il y a des moyens scientifiques, des moyens hydriques. Quand on leur dit, vous ne pouvez pas stocker de l'eau.
Exactement.
Pendant l'hiver, et ensuite, quand il fait hyper chaud, on te dit, ah bah oui, enfin, il faut donner des milliards, mais laisser les gens stocker de l'eau. Enfin, je veux dire, On peut pas remplacer des solutions qui sont scientifiques, qui sont même de bon sens, par toujours des chèques et de l'argent.
Ouais, donc surtout que c'est notre argent.
Mais oui, mais je suis en empathie avec les agriculteurs et je comprends l'appel de la FNSEA. Sauf que j'ai envie de dire non. Parce que les problèmes, parce que si je laisse l'État toujours réagir comme ça, je me dis, mais il va jamais aller sur des solutions pour régler le problème structurel. Voilà, pérenne. Donc, l'argent, ça suffit. Laissez-les travailler, enlever leur des normes, laissez-les
là,
mettre de l'autre côté.
Là, il y a une urgence.
Oui, mais d'accord,
quand même
mais c'est tout le pays qui est en urgence. Enfin, je veux dire, moi-même, je suis en urgence.
Qui ont tout perdu.
Tout le pays est en urgence. Les hôpitaux sont en urgence. Les agriculteurs, l'école est en urgence. Les entrepreneurs sont en urgence. Enfin, on est tous en urgence. Enfin, je veux dire, je suis fatiguée. On peut pas vivre un pays en urgence permanente. Donc, OK, donnez-leur les milliards, mais qu'est-ce que vous allez faire ensuite pour arrêter ça?
Le problème, c'est qu'on n'en a plus des milliards.
Ah oui,
je veux bien, c'est le grand jeu dans notre pays d'aller demander de l'indemnisation tout le temps, etc. Mais moi, je préférerais que ces milliards servent, tu l'as dit, à un grand plan stratégique de construction de méga-bassines dans tout le pays pour faire face à la sécheresse et qu'on n'ait plus besoin d'apporter de l'argent aux agriculteurs qui auraient perdu leur récolte. On est toujours dans ce pays à compenser nos échecs. C'est un échec de pas savoir arroser, voilà, on l'a vu venir le réchauffement climatique et on refuse de stocker de l'eau. Et ben l'argent, alors il va falloir trouver des solutions pour les agriculteurs, mais l'argent au lieu de le mettre pour payer des pertes, mettons-le dans un plan stratégique.
Si demain le gouvernement dit on met en place une espèce de fonds d'aide de plusieurs milliards d'euros avec dans le cadre de la solidarité nationale. Toi, tu dis, tu étais prêt quand même à payer ou pas?
On peut le faire encore un peu pour sauver quelques exploitations, mais j'ai le sentiment que dans notre pays, à chaque fois, il faut dire que t'as beaucoup souffert pour espérer obtenir beaucoup d'argent et que plus personne travaille, on demande des chèques. Bah non, voilà. Et le rôle de l'État, c'est pas de compenser les difficultés, c'est d'avoir une vision stratégique.
Alors, prêt à payer, voilà, être solidaire avec les agriculteurs, 32-16 pour le dire au GG, monsieur Didier Giraud. Alors, effectivement, est-ce qu'il va falloir des milliards?
Non, ce qu'il faut dire déjà, c'est que la déclaration d'Arnaud Rousseau, c'est une déclaration politique. Elle répond à une autre déclaration politique. Il y a 15 jours, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, annonce un plan sans précédent pour passer le cap, sauf qu'il n'y a aucune date, aucune somme. Voilà. C'est une annonce comme le gouvernement a l'habitude d'en faire. Considérant qu'une fois que l'annonce est faite, le problème est réglé. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et si Arnaud Rousseau demande des milliards, c'est parce qu'il est comme les autres. Il essaie de créer un peu le buzz pour que le truc y soit repris, qu'on se mette autour d'une table et qu'on définisse qui, quand, comment, combien. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une sécheresse complètement exceptionnelle, comme elle arrive une fois tous les 50 ans. La dernière, c'était 76. L'ampleur du phénomène fait que ça touche, à mon avis, toutes les productions et toute la France.
Après, dire que si vous n'êtes pas aidé, certains vont mettre la clé sous la porte.
Mais ça, c'est évident.
Hormis les problèmes, comme le disait Joël, structurels qui existaient déjà.
Alain, quoi. Ça a pas commencé avec la sécheresse.
C'est ce
quoi.
Que je te dis. Oui.
Tu parlais de 76. En 76, il y avait 1 500 000 paysans. Aujourd'hui, il en reste à peine 400 000. Voilà. Le taux de remplissage de la ferme France fait que baisser, le taux d'autosuffisance alimentaire fait que baisser dans toutes les productions. Donc à un moment donné, on a un choix de société. Tu disais Antoine, moi je suis d'accord de payer pour un plan stratégique. Sauf que le plan stratégique, c'était il y a 10 ans qu'il fallait le faire pour répondre à la sécheresse d'aujourd'hui. On l'a pas fait le plan stratégique. D'ailleurs, on nous a fait chier quand on essayait de s'adapter. Joël a bien dit, le problème c'est quand même un peu les normes et c'est aussi les doctrines de gens qui dirigent ce pays, qui sont influents dans les bureaux et qui considèrent qu'à un moment donné, l'agriculture dite productiviste, en gros celle qui nous monde, il en faut plus. Donc à un moment donné, quand tu pars de ce constat-là, le plan stratégique, il sert à rien. Aujourd'hui, les gens, ils vont crever. Enfin, moi, sur mon exploit, on n'en est pas à faire profiter les vaches, quoi. On n'en est pas à les faire grossir. On en est à les empêcher de crever, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on est là, les gens qui font des légumes, tout ça, je connais des gars qui font de la salade, ils ont tout perdu, quoi. Ouais, tout. Ouais. Donc, à un moment donné, quand t'as passé ce cap-là, le choix, il est de savoir si tu veux maintenir des gens en place, essayer de faire en sorte qu'ils continuent à produire demain ou pas. Et puis après, moi, je vais lier tout ce qu'on a vécu cet été, parce que ça se lie complètement, quoi. C'est complètement lié. Si on fait le choix de dire on n'aide pas les agriculteurs parce que finalement la bouffe, on l'achètera ailleurs, elle coûtera moins cher. Parce que ça, c'est un choix stratégique qui est en train de se faire de façon insidieuse. Le jour où le feu il démarre dans les Landes et puis qui remonte jusqu'à Nantes ou qui démarre à Nice et qui remonte jusqu'à Grenoble, on vient pas pleurer quoi après. Hein. Mmh. On assume le truc.
Ouais,
quoi,
parce que jusqu'à présent c'était les agriculteurs qui entretenaient aussi
les forêts, les terrains, etc. Fort, là. Ouais, ouais. Moi quand j'étais gamin, c'était des zones d'élevage quoi. Hein. Ouais, ouais. Et à un moment donné quand l'élevage recule, et ben qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord de la friche, ensuite de la forêt, et puis le jour où ça brûle, ça brûle, et on peut pas l'arrêter quoi.
Joël.
Non mais moi je comprends ce que t'expliques, mais dire que c'est trop tard, je peux pas l'entendre. Il y a une expression qui dit le meilleur moment c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Donc je veux dire on peut pas s'arrêter là et juste dire bon ben on va donner des milliards pour maintenir les agriculteurs.
Non, sur la sécheresse 2026, je dis c'est trop.
Ah oui, c'est trop tard. Oui, d'accord.
Sur la sécheresse 2028, on a peut-être encore un peu de temps.
Mais on doit bien préparer l'avenir.
Sur la sécheresse 2026, c'est trop.
On doit bien préparer l'avenir et je sais qu'il y aura de la casse en préparant l'avenir. Je sais qu'il y a des agriculteurs ou dans d'autres professions, des gens qui se relèveront pas. Mais on doit bien préparer les gens qui
donc c'est l'occasion,
arriver,
c'est l'occasion d'une transformation
mais
aussi.
Oui, mais quand
non
on
mais
vit,
faut
quand
arrêter de raconter que mais,
attends, 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 Joël,
non, mais vous dites des conneries. Non, mais que la grande transformation c'est pour demain. Mais les agriculteurs, ça fait 50 ans qu'ils se transforment tous les jours. On n'a pas entendu que vous décrétiez sur un plateau
non,
télé
pas,
que c'est la grande
mais non,
transformation
pour
se transformer.
Mais, c'est pas vous
mais tous
qui,
les jours
mais
on transforme.
Non, mais c'est pas vous qui devez vous transformer. C'est l'État qui doit transformer sa façon de penser. Vous, vous voulez bien. J'imagine toi, tu veux bien, par exemple, mettre de l'autre côté en hiver. C'est l'État qui t'en empêche. Donc moi, c'est à l'État que je demande de transformer sa façon de penser.
Les
agriculteurs,
lancer,
ils savent ce qu'ils ont à faire. Toutes les professions, que quand tu les écoutes, quand tu vas sur le terrain, chacun sait ce qu'il a à faire.
Oui, mais regarde,
et en général,
regarde,
ce qu'il faut faire
minutes,
pour que ça tienne.
Il y a quelques minutes, sur RMC, il y avait François Gémen, tu sais, le climatologue. Et Didier, il était à côté, d'ailleurs, il a échangé trois mots avec lui. Ce qu'il disait, lui, il dit, c'est normal d'aider les agriculteurs, mais il faut que les agriculteurs, aujourd'hui, quand je dis se transformer, pensent à une agriculture qui soit moins énergivore, moins gourmand en eau aussi,
Alain.
Parce que on va avoir aujourd'hui des changements de saison, on va avoir des ressources qui seront plus rares.
Alain.
Donc il y a, si tu veux que les agriculteurs aident,
s'adapter quoi,
aident parce qu'il y a une urgence, il y a des gens qui vont crever, peut-être se suicider encore plus malheureusement, c'est une chose. Et puis après il y a que se passe-t-il face aux changements, face aux dérèglements climatiques, face à ces sécheresses qui s'accumulent? Et ça, c'est aux
non,
agriculteurs
mais l'eau, elle est là,
de le faire.
Là, hein. Faut arrêter de raconter des conneries.
Elle
hein.
est là, l'eau.
L'eau, elle est là. Fin avril, toutes les nappes phréatiques de France étaient regonflées à des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on nous dit que les nappes phréatiques sont en bas. Alors déjà, moi, j'aimerais bien voir les chiffres et concrètement où on en est. Mais la pluviométrie annuelle, elle ne baisse pas. Elle est répartie différemment dans le temps. Et après, ce que j'ai dit à François Gémen, je vais vous le redire ici. À un moment donné, moi, si on me donne scientifiquement la plante qui me permet de nourrir mes vaches, sans me faire chier à faire du maïs qui fait 50 cm de haut, mais moi, j'en plante 30 hectares de cette plante-là. Sauf qu'aujourd'hui, scientifiquement, on l'a pas. Et la seule solution qu'on a, c'est de stocker de l'eau l'hiver, quand elle tombe, et arroser l'été. Voilà, c'est la seule solution qu'on a. Mais il y a aujourd'hui des intégristes qui nous empêchent de faire
on
ça.
On a Aurélie qui veut réagir, elle est dans le Gard, elle est agent immobilier. Aurélie est au 32-16. Bonjour, bienvenue Aurélie.
Bonjour les GG. Alors, vous nous avez manqué, il ne faut pas disparaître comme ça.
Hein, bah, écoutez, tout le monde s'est un petit peu reposé et vous nous voilà de retour.
Je me lève le matin, je vois un best-of, je dis non, ils sont passés où, c'est pas possible.
Aurélie, alors est-ce que vous êtes OK pour donner des milliards aux agriculteurs, la solidarité?
Pas du tout, non. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas aider les agriculteurs, mais en fait, j'en ai marre d'aider la planète, c'est tout. J'en ai marre d'aider tout le monde, il faut donner de l'argent pour tout le monde. Je veux dire, il y a un moment, on ne peut plus, quoi, c'est plus possible. On vit comment? On a déjà l'essence à 2,24 du litre en ce moment, là, dans le sud, hein, je vous le dis comme ça au passage. Plus les impôts pour ci, pour mi, mais on fait comment, en fait? Comment c'est possible? On nous prend, nous, les agents IMO, enfin, tous les auto-entrepreneurs, on nous prend 26% d'URSSAF pour que dalle. On nous prend des impôts sur revenus, on les voit pas passer. Où va l'argent? À l'Ukraine, peut-être, hein, pardon, mais j'avais oublié. Il y avait l'Ukraine à aider. Non, la priorité, enfin, je suis désolée,
vous
ça fait des années
pas, que... Pas d'impôt sécheresse, pas d'impôt agriculteur, quoi.
Pas d'impôt tout court, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, là, quand ils nous ont fait toutes leurs trucs, là, les COP21, les machins, les bidules, ils savaient que le climat, il allait changer. Pourquoi ils anticipent pas? Pourquoi ils anticipent pas sur ça?
Parce qu'on a manqué de courage pour une lithique, Aurélie.
Ben voilà, mais c'est ça. Mais en fait, moi, enfin, franchement, Didier, je vous aime beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour votre profession. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut. Enfin, c'est toujours nous. On vient nous chercher à nous. Il y a le feu. Il y a le feu en Gironde. On fait des appels aux dons. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Enfin, moi, je suis pas
d'accord. Ah non, mais moi, les
cagnottes,
ça me
rend fou. Par rapport au principe. Sur le principe, c'est non. Après, aider des gens qui sont en peine, moi, je comprends. Quand on a des terres qu'on fait des années et des années de la culture et qu'au bout d'un moment, bah, ça termine comme ça, mais franchement, ça fait chier, voilà, faut le dire. Et ouais. Je comprends tous ces gens. Mais on peut pas non plus... Moi, je suis pas Wonder Woman pour tout le monde. Mmh. Déjà, moi, je
oui, puis
mariée,
on a plus d'argent.
J'ai pas d'enfants. Je paye des impôts pour bien des gens. Ouais. Voilà. Nous, on a alors, avec mon mari.
Aurélie.
Je pleure pas dans les chaumières. Ouais. On a le droit que dalle, quoi. Donc voilà.
Antoine, je voulais réagir à ce
partage,
que dit
je partage ce que dit Aurélie. On est dans le pays au monde où la captation d'argent public est une des plus grandes. Donc on peut pas en prendre plus et en redistribuer encore plus. Donc il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. On trouvera pas les milliards que chacun demande pour compenser les pertes.
Bah, ce sera des mesures d'urgence pour la trésorerie. Ce sont des prises en charge des cotisations sociales. Ce sont des dérogations. Ce sont des reports de charges. C'est comme ça que ça va se.
Alors, c'est comme ça que ça va se traduire. Ça, ce sera aussi de l'inflation sur les produits agricoles français.
Oui, parce que ça, au final, nous, on va payer plus cher aussi des produits.
Vois, moi, je vois déjà les sujets qu'on va avoir au mois d'octobre, quoi, tu vois.
On
en parlera de ça. L'inflation. Le prix de la baguette va augmenter parce que la récolte de blé a été faible et que voilà. Parce que du coup la sécheresse elle en tient grand aussi. Le kilo de viande va augmenter. Enfin voilà, tout ce qu'a des céréales va augmenter.
On a Pascal
de façon
qui est
direct
là.
Ou indirect, mais je vois. Déjà les débats qu'on va avoir autour du pouvoir d'achat cet automne.
Pascal qui est agriculteur bovin, oui. Tu sais, il est en Vendée. Pascal, bonjour, bienvenue Pascal.
Bonjour à vous, bonjour à tout le monde.
Bonjour Pascal.
Pascal, aider les agriculteurs, oui ou non? J'imagine que vous allez me dire oui.
Non, mais attendez, oui, à court terme, là on est presque obligé de le faire parce qu'on a des situations en trésorerie qui vont être catastrophiques, des exploitations qui vont avoir de très gros problèmes. Par contre, où je rejoins un peu ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que si structurellement on ne fait pas des choses, on met de l'eau dans un tour des Anaïdes. Là.
C'est ça,
c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va revenir, l'année prochaine on va revenir parce qu'il y aura trop d'eau, les plantes seront noyées en fin d'hiver. Après, ça va être de la sécheresse. Donc, ce qu'il nous faut, c'est remettre en place des choses qui soient structurellement correctes et qui permettent aux agriculteurs de vivre. Parce que moi, je veux bien aider les agriculteurs qui font du maïs pour l'exportation, mais il faudrait quand même que cette exportation soit rémunératrice pour l'agriculteur qui le produit. Parce que si on veut produire du maïs pour exporter au prix mondial, qu'il faut aider l'agriculteur pour qu'il mette en place de l'irrigation, je sais pas où c'est qu'on va gagner
mais
d'argent.
Mais même ça, la culture du maïs, elle est remise en cause aujourd'hui par bon nombre aussi d'experts qui disent que ça bouge trop d'eau, la culture du maïs.
Non, mais ça, c'est la connerie, Alain, parce qu'on n'a pas l'alternative. Aujourd'hui, le maïs, c'est une culture qui nous permet de produire de l'énergie l'été.
Oui, mais attends, Didier. On peut aussi diminuer cette culture de maïs en implantant, par exemple, ce qu'on fait par chez nous, du métal, pour pallier à ce déficit. Donc, tout est possible. Il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas de solution, c'est faux. Par contre, ce qui m'ennuie, moi, c'est quand on voit M. Rousseau qui vient sur les antennes, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il défend autre chose, qui est au-dessus de nous, c'est l'agroalimentaire.
On peut toujours faire ce procès-là, Pascal, mais pour moi, il y a quelque chose de bien pire, hein. C'est que du maïs, il en va aussi des centaines d'hectares dans les méthaniseurs aujourd'hui.
Pascal,
on l'a pas posé. Hein.
Vous aurez conclu la discussion. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aider les agriculteurs? Faut-il des milliards pour les agriculteurs? On n'en est pas à l'impôt sécheresse encore, hein, comme en 76.
Mais
regardez, faut-il donner des milliards à l'agriculture pour faire face au changement climatique? Non, à 54%. 54.
Ça veut dire quand même oui à 45.
54,8. Et oui, à 45%. Dans un instant, puisqu'on parlait de la crise, on a une autre crise peut-être qui arrive. Et là, on se tourne vers Ceuta, vous savez, l'enclave espagnole au Maroc. Il y a des appels de nous voir passer la frontière. Est-ce qu'on est face à une crise migratoire en perspective? 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous êtes avec nous à la télé, à la radio. Et c'est le 32-16 qui est à votre disposition pour prendre la parole. Didier Giraud, notre agriculteur de Saône-et-Loire, est là. Tout comme Joël Dagosséry, la coach de vie. Et Antoine Dierce, le consultant auprès des entreprises, le consultant juridique, l'homme de Dunkerque. On va regarder ce qui se passe du côté de l'Espagne, ou plutôt de l'enclave espagnole de Ceuta. C'est au Maroc.
Il y a 10 jours, beaucoup d'entre vous ont appris l'existence de cette enclave espagnole au Maroc, l'enclave de Ceuta, et l'Espagne est de nouveau sur le qui-vive. 70 000 personnes, il y a 10 jours, étaient entrées dans l'enclave. 70 000 sont reparties, 2 000 sont toujours sur place. D'ailleurs, le dirigeant de Ceuta veut confiner les migrants en attendant leur expulsion, ceux qui restent. C'est ce qu'il dit, et il s'inquiète. Et d'ailleurs, les dirigeants espagnols s'inquiètent parce que sur les réseaux sociaux, il y a de nouveau des appels avec des codes comme 15/8/15/8, ce qui veut dire peut-être 15 août, pour passer de nouveau la frontière en disant qu'il pourrait y avoir de nouveau des régularisations. Alors il y a bien sûr ce qui tient de l'ordre des fake news, mais il y a les appels de nouveau, les forces de l'ordre ont été renforcées, on a même installé des barrages boués en mer, parce qu'il y avait une rumeur qui disait que si on arrivait par la mer, on pouvait ensuite bénéficier de titres d'accueil. Exactement. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de, on n'avait pas forcé la frontière. C'est pour ça que là, cette fois-ci, on a mis des bouées. Est-ce que cela va suffire? Vous avez vu que ça avait créé une crise entre les Européens aussi. S'il y a un nouveau problème à Ceuta, est-ce qu'on aura une crise migratoire cet été? Est-ce que vous êtes inquiet? 32-16, pour en parler avec les GG. Monsieur Antoine Dierce.
Je pense déjà que tout le monde a en tête les images des 30 et 31 juillet dernier. Il y a 50 000 personnes qui se sont précipitées sur une frontière européenne. On a ces images, des foules d'hommes jeunes qui arrivent et qui forcent l'entrée. Les autorités marocaines sont restées très passives face au phénomène, en laissant aller ces gens vers la frontière européenne. Et puis, on n'a toujours pas trouvé d'où venait sur les réseaux sociaux la manipulation des foules. Mmh. Et donc, il faut qu'on commence à comprendre que l'immigration clandestine, illégale, violente va être une arme diplomatique, géopolitique, de déstabilisation, et l'Union européenne reste parfaitement passive. Ce qui m'a choqué, c'est les tenants de l'extrême centre qui minimisent, qui disent « Mais non, il n'y avait pas 50 000 personnes, mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais non, mais il n'y a rien de mal, enfin voyons, vous exagérez toujours. » Alors qu'en réalité, c'est l'enjeu de demain pour l'Union européenne de faire face à ces afflux. Je me mets à leur place, hein. Ils veulent quitter peut-être des conditions économiques défavorables, mais si l'Union européenne ne se met pas en mesure de défendre efficacement ses frontières...
Même ça d'ailleurs, tu as raison, on l'a pas su précisément qui étaient les 50 000 ou 70 000 personnes, si c'était uniquement des gens qui venaient du Maroc, s'ils étaient au Maroc et que c'était des migrants d'autres nationalités, ça a été un peu compliqué de le savoir. Là, visiblement, il y a aussi beaucoup de mineurs qui se retrouvent là à Ceuta. On ne sait pas trop ensuite ce qu'ils vont devenir. Didier Giraud, Joël Dagosséry, Didier.
Moi, j'ai pas fait une analyse fine de la crise, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que les Espagnols, ils se font chier avec ce truc-là, quoi. Ils ont 40 ce territoire-là au Maroc, et puis l'affaire, elle est réglée, quoi. Enfin, je vois pas comment tu peux garder ce type de territoire, quoi.
Peut-être ce que le Maroc espère.
Non, mais
en étant passif.
Évidemment. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, Antoine. Je pense que l'Europe et au moins l'espace Schengen devrait se doter d'une douane extérieure, quoi. C'est-à-dire que les pays de l'intérieur devraient mutualiser des moyens pour pouvoir garder ses frontières sur l'extérieur, mais de façon efficace. Parce qu'il y ait la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, c'est quelque chose. Que l'Europe soit complètement poreuse, c'en est une autre, quoi. Et pour moi, l'enjeu, c'est l'extérieur de l'espace Schengen. Et je pense pas qu'il y ait bien d'écart quand tu traverses la frontière bulgare-turque par rapport à la frontière France-Italie ou France-Espagne, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et ce genre de phénomène doit faire en sorte que l'Europe prenne en compte l'extérieur de son espace, parce que tu peux pas non plus accueillir
tout le monde. Mais il y a toujours le mirage, si tu veux, de se dire, et moi je peux le comprendre, j'ai un avenir meilleur aussi en Europe.
Non, mais quand tu vois qu'en Espagne, c'est un autre
oui. Bah, si tu sais, le cœur du problème aussi. Quand tu vois qu'en Espagne, ils ont fait combien
des régularisations.
600 000 régularisations exceptionnelles, et il y a eu 1 million de dossiers déposés.
Bien sûr.
En Italie, ils ont fait 450 000 permis de séjour. Donc si tu veux, ça aussi, ça pèse. Et puis tous ceux qui passent, maintenant, aujourd'hui...
Le permis de séjour, c'est un peu différent. différent de la régularisation. Ah oui, mais, t'as quand même vocation à repartir chez toi après avoir travaillé.
La vraie question, c'est aussi comment on peut, avec 3 tweets et 2 publications Facebook, arriver à mettre 50 000 personnes dans la mer en leur faisant croire
y a une
si
vraie manipulation.
À la nage, ça va bien se passer.
Il y a un groupe derrière ou au moins un groupe informel qui pousse ces gens.
Les Russes, qu'il y a, je sais pas qui.
Voilà. Je sais pas qui.
Joël Dagosséry.
Non, première chose, et je reprends ce que Didier a dit, je sais pas ce que l'Espagne fout au Maroc. Il y a un moment où vouloir absolument garder 2 enclaves sur un territoire qui n'est pas le tien, enfin, faut quand même se poser des questions, notamment si ce territoire te pose des problèmes constamment. Donc là, il faut quand même, je sais pas si en Espagne si c'est un débat, mais se poser des questions si ce territoire, en fait, quel est l'avantage de le garder, s'il nous pose autant de problèmes, notamment sur le plan migratoire, qu'est-ce qu'on fait sur un pays étranger? Enfin, moi, je suis, vous le savez, contre toute forme de colonialisme. Donc, pour moi, ça, c'est du colonialisme. Donc, tu n'as rien à faire sur ce territoire. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu y es,
tu assumes.
Eh ben, oui, parce que là, ce que je comprends, c'est que la sécurité est déléguée aux Marocains. Mmh. Bah oui, bah donc les gens arrivent. Tu sais pas pourquoi la sécurité marocaine tout d'un coup est assez passive, parce qu'en fait nous les Européens on délègue souvent nos frontières à des pays en dehors. Ça on l'a vu aussi notamment il y a quelques années où on avait délégué au Liban le traitement des migrants qui venaient de Syrie, etc. Enfin il y a un moment où il va falloir quand même se poser des questions. Voilà, là, exactement.
Et là Giorgia Meloni elle a négocié aussi avec des pays d'Afrique, la Tunisie. Notamment la rétention des immigrés. Elle paye d'ailleurs pour ça, Giorgia Meloni.
La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se mentir, on est faible. L'Europe est un continent vu, en tout cas de l'extérieur, comme étant faible. Premièrement, faible sur ses frontières, c'est-à-dire que oui, elle se barricade, là tu vois, on voit des grillages, etc. Mais la faiblesse, elle vient de quoi? C'est que je pense que les migrants se disent, une fois que je rentre là, il y a très peu de chances qu'on réussisse à me ramener de l'autre côté. Donc ça, c'est une faiblesse de pas pouvoir. Le fait, c'est pas seulement de se dire oh on barricade tout, etc. C'est la force, elle est aussi de se dire ok, s'il y a des gens qui rentrent, est-ce qu'on a les moyens de les ramener de chez eux? Eh ben l'Europe, à mon avis, est vue comme incapable, en tout cas en majorité, d'exercer ce pouvoir-là, c'est-à-dire de se dire, les personnes n'ont pas le droit de rester là, je les renvoie chez eux. Ça, c'est une énorme faiblesse. Et la faiblesse, elle vient aussi du fait que, technologiquement, on est déstabilisé sur le plan digital, technologique. Les gens savent que, en fait, on peut venir déstabiliser l'Europe avec la crise migratoire, parce qu'en fait, moi, je crois à la Russie ou bien à d'autres choses. Parce qu'après ça,
c'est peut-être pas la Russie.
Ou autre chose. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez comment ils sont faibles. Regardez ce qui vient chez eux, etc. Machin. Donc. L'Europe est vraiment, c'est dommage que des gens qui se soient réunis à 28 pour être puissants soient aussi faibles. Et la faiblesse, je l'ai vue aussi dans les réactions suite à l'arrivée de ces migrants. C'est-à-dire
ils sont partis d'ailleurs dans les 36 heures. On dit que 50 000 ou 70 000
sont repartis.
Il en reste 2 000.
Demande aux habitants de Ceuta s'ils sont repartis.
Mais excuse-moi. Zéro solidarité, c'est-à-dire qu'on s'est mangé entre nous. L'Italie, Giorgia Meloni a attaqué l'Espagne, alors qu'on aurait dû.
Giorgia Meloni de droite, l'Espagne de gauche.
Oui, mais peu importe. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est des frontières européennes, de droite, de gauche. Soit on se soutient ensemble, parce que j'imagine que l'Espagne n'a pas souhaité accueillir. Je sais qu'ils ont une politique de régularisation, mais c'est une politique contrôlée, c'est une politique volontaire, pas une politique subie. Donc là, ils ont subi une vague migratoire. Il y a à les soutenir et pas à leur dire ouais attention, moi tout d'un coup je serais plus solidaire de vous machin. Enfin, on est zéro sur le plan de la force, et la force c'est aussi la cohésion.
Mais la force c'est aussi des images. Si on montre des images, si tu veux, de coercition ou de force face à des gens qui arrivent, qui sont des migrants, qui sont pour beaucoup démunis et autres, on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer, quelle image on va renvoyer et autres.
Il y a pas
quoi,
que
si
ça,
tu veux,
là.
Tu vois.
Il y a aussi la volonté politique. Enfin, on a connu ces images-là à Lampedusa, ça n'existe plus aujourd'hui. Lampedusa, c'est plus ce foutoir-là. Pourquoi c'est plus ce foutoir-là? Parce que je présume que Meloni, elle a fait les choses pour que ça soit plus ce foutoir-là, quoi. Voilà.
Non,
et que, en plus, l'Italie, c'est un pays qui a besoin d'immigration. Mais ils gèrent leur immigration.
Voilà. Avec des permis de séjour. En fait, Antoine, et puis après on écoute Francis au 32-16.
Moi, j'ai été directeur de cabinet du maire de Calais au moment de la crise migratoire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici. Vraiment, la lâcheté de ne pas traiter le problème ne rend même pas service aux migrants eux-mêmes qui se retrouvent dans des camps, dans des cul-de-sac à Calais, qui mettent leur vie en danger, etc. Et donc, en réalité, même au nom de l'humanité, on devrait faire preuve d'une grande rigidité en indiquant que personne ne passera, que personne n'obtiendra de régularisation. Et je pense que si on veut maintenir l'existence d'une Union européenne, d'un espace Schengen, on doit interdire aux États, indépendamment de faire de leur propre chef des régularisations, parce que les régularisés en Espagne sont évidemment depuis partis en Angleterre, en France, partout ailleurs. Donc si on veut pouvoir faire durer l'Union européenne, faire exister cette idée qui n'est pas vraiment la mienne, ça passe par
de
la fermeté urgente.
C'est Francis qui va en discuter avec nous, il appelle de Meurthe et Moselle, il a de la famille en Espagne. Bonjour Francis.
Bonjour à tous.
Bonjour Francis, est-ce que vous pensez qu'on va avoir droit à une nouvelle crise là, le week-end du 15 août? Enfin, c'est ce qui semble émerger sur les réseaux sociaux, dites-moi.
Non, alors comme on rentre dans une période de campagne présidentielle, tout le monde se précipite sur immigration, vague migratoire, l'Union européenne, les frontières, etc., etc. En Espagne, c'est pas du tout la question qu'on se pose. En Espagne, on se dit, il n'y a pas 70 000 personnes qui décident comme ça un jour. Réunir 70 000 personnes, c'est remplir quasiment le Stade de France. Hein. Donc il n'y a pas 70 000 personnes qui un jour comme ça décident de se précipiter à un endroit. C'est quelque chose qui est organisé. Donc la question que les Espagnols se posent, c'est qui est derrière cette organisation? Ça vient du Maroc. Ok, mais le Maroc n'est pas un pays en crise, n'est pas un pays en guerre. Le Maroc n'est pas un pays pauvre non plus. Donc c'est autre chose. Et l'autre chose, les Espagnols aujourd'hui le décrivent comme une opération américano-israélienne. Pourquoi? Parce que l'Espagne a pris fait et cause pour la Palestine dans le conflit israélo-palestinien.
Ouais.
Et l'Espagne a interdit ses bases militaires aux avions américains dans le cadre du conflit sur l'Iran. Donc c'est une affaire géopolitique, c'est une affaire géostratégique, mais ce n'est pas un...
Alors qui est à la manœuvre selon vous alors?
En Espagne ils disent Israël, Israël avec l'appui des Américains. Voilà, et ça semble tout à fait...
Moi, si, ça... Je...
Ouais. Ça me paraît un peu complotiste, moi, je...
Je
vous dis ce qu'on dit en Espagne, et Antoine, il faut arrêter avec ce mot complotiste. Quand on n'a plus d'argumentation, on parle tout de suite de complot.
Non,
l'immigration. Tous les problèmes de notre pays et de l'Union européenne viennent de l'immigration, mais à un moment donné, on met ça de côté, puis on essaye de réfléchir.
Non, bien sûr, mais ça veut pas dire... Francis, là, ça n'est étayé par aucune preuve tangible. Donc, on peut vous dire aussi, ça repose simplement sur ce qu'on vous dit en Espagne. Il y a pas de preuve de dire qu'effectivement, ce sont les Américains et les services secrets israéliens qui sont derrière. Antoine évoquait la piste d'une déstabilisation.
J'ai dit que
c'est pas de qui elle
mais
vient.
Mais de là à savoir de qui, je trouve que vous avancez beaucoup et que ça sert finalement le discours de la gauche espagnole de dire, regardez, ce sont les Américains et les Israéliens qui sont contre nous. Je pense que c'est aussi un piège politique de dire ça.
Voilà. C'est marrant parce qu'en fait, quand on évoque les Russes, par exemple, il n'y a pas de réaction, ça dérange personne. Mais là, Francis, il avance une théorie, certes, qui n'est pas vérifiée, mais qui est entendable, selon moi, de l'Amérique et d'Israël. Et là, tout d'un coup, complotiste. Non, c'est pas complotiste. Les déstabilisations.
Pour les Russes, ces derniers temps, tous les gens qui ont été interpellés ou interceptés, ils étaient liés aux services russes.
Bien.
Ça s'est vu. Je dis simplement que ce que dit Francis, ce qui lui est rapporté, c'est possible, mais pour le moment, ça n'est étayé par rien du tout, quoi.
Oui,
voilà.
Mais qu'on se pose la question, le fait que Francis dise qu'en Espagne, en fait, eux, ils réfléchissent à qui est derrière ça et qu'ils pensent à ça compte tenu des positions du premier ministre espagnol, ça peut aussi s'entendre. Donc moi, je vois bien que c'est une déstabilisation.
Parce que tu l'as dit toi-même, quoi. Hein, la faiblesse de l'Europe et particulièrement de l'Espagne, c'est qu'on cherche à savoir d'où ça vient avant de penser à reconduire les gens chez eux, quoi. Oui, et on les régularise massivement. Et quand même,
comme tu disais, c'est une affaire de politique intérieure. Et on voit d'ailleurs en France comment on s'est positionné sur cette histoire Ceuta. D'ailleurs, il y a une interview d'Edouard Philippe qui dit, qui maintenant se pose en chantre anti-immigration. Tu vois, il dit, je refuse l'impuissance migratoire. C'est ce qu'il dit, ce qui s'est passé à Ceuta n'est pas clos. Là, c'est un avertissement.
Mais
il veut un verrou Schengen.
Être...
Voilà, c'est ce qu'il dit maintenant, Edouard Philippe.
Qui pisse le plus loin.
Moi, je veux pas écouter des gens qui ont été aux manettes. Plus haut sommet de l'État, nous raconter des sornettes. Enfin, je peux encore tendre l'oreille sur quelqu'un qui n'a jamais été aux manettes, mais quelqu'un qui a dirigé l'État pendant 3 ans et qui vient tout d'un coup nous dire que lui, il refuse ça, alors que la situation, je veux dire, elle n'a pas tellement changé depuis que Edouard Philippe était Premier ministre. Donc non, moi, je ferme les oreilles, j'écoute pas ce qu'il raconte.
Il va limiter l'immigration à 80 km/h.
Surtout que dans le même temps. De son temps, quand il était aux manettes, c'était à Lampedusa, mais c'était la même chose.
Surtout que dans le même temps, Edouard Philippe dit qu'il est en faveur d'une immigration de travail, si tu veux. Donc il y a une espèce de nouveau dans même temps.
En tout cas, ça montre bien que ce sera un sujet clé pour la présidentielle, au point que le centre, qui historiquement n'a pas de discours d'immigration très construit, essaye d'en trouver un. On a vu Attal, on a vu Edouard Philippe, donc ça montre bien, si même eux vont sur le sujet, qu'on a un problème.
Merci Francis d'avoir été dans les Gigi. On a posé la question, est-ce que vous pensez qu'on va avoir une nouvelle crise migratoire le 15 août prochain? Vous dites oui à quasiment 90%. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Le pape va faire sale comble, si je puis dire, à Paris. Il y a déjà plus de place pour le Stade de France. 200 000 personnes prévues sur les Champs-Élysées, la place de la Concorde. Est-ce qu'on s'en fiche ou pas? Plus de lunettes pour voir l'éclipse, on a du mal à en trouver. Et 37% des Français qui utilisent l'intelligence artificielle pour draguer. Est-ce qu'on s'en fout de tout ça ou pas? Louis Gerbier arrive et on va voir ce qu'en disent nos GG. A tout de suite, il est 10h moins les mains.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Vous êtes avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Didier Giraud, l'agriculteur, Antoine Diers, le consultant juridique. Tout à l'heure, à 10h, notre procès, un sujet de discussion qui vous fera intervenir au 32-16. Ce sera à propos de ces villes qui refusent les permis de construire pour les piscines au nom de l'économie d'eau. Est-ce que vous comprenez, oui ou non? On va vous en parler au 32-16, d'autant que ça peut mettre quand même aussi en difficulté tout un secteur d'activité. Donc vous venez en discuter avec nous. En attendant, c'est le « on s'en fout, on s'en fout pas ».
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour tout le monde. Une nouvelle Céline Dion cette année. C'est la visite du pape qui fait mieux que Céline Dion pour remplir le Stade de France.
Parallèle audacieux.
La visite du pape, on s'en fout pas Joël.
On s'en fout pas.
Didier.
Non, on s'en fout pas.
Et Antoine.
On s'en fout pas.
Donc le pape est attendu du 25 au 28 septembre pour une visite à Paris, à Lourdes et à Metz. Le Stade de France a affiché complet en quelques minutes pour la veillée avec les jeunes. Et 500 000 personnes sont attendues, place de la Concorde et sur les Champs, pour la messe dans la rue. Joël, dis-moi pourquoi tu t'en fous pas.
Tu y seras?
Non, j'y serai pas. Bon, je suis pas catholique, mais en tout cas, si c'était retransmis, je regarderais, par exemple. Je trouve ça génial. Premièrement, déjà, qu'il casse les codes, c'est-à-dire qu'il va dans un stade, un peu comme un concert ou un grand spectacle. Donc, il se contente pas d'une place sur une cathédrale ou quelque chose de très conventionnel. Qu'il y ait autant de personnes en très peu de temps qui réservent, c'est un retour pour moi. Moi, je suis pour le retour de la foi. Donc, de toute façon, je suis pour le retour du christianisme. Donc, je vais pas me cacher derrière ça. Donc, je suis plutôt très contente que ça se passe comme ça. Je suis plutôt très contente qu'il y ait ce retour-là, notamment chez les jeunes. Moi, je le vois avec ma fille, hein, par exemple. C'est des choses qu'elle parle entre copines, du carême, etc. Moi, ça avait complètement disparu dans ma génération. Donc, je suis plutôt satisfaite de ça. Ensuite, il faut pas mentir. Il y a aussi une grande désespérance dans le pays. Je sais pas si c'est dans tout l'Occident, mais en tout cas dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'avenir, de projection dans l'avenir, une sorte d'individualisme. Et donc là, je pense que c'est aussi un moyen de retrouver quelque chose auquel croire, se raccrocher, un espoir pour l'avenir. Mais ceci dit, je trouve ça vraiment positif. Quand tu vois que Edouard Philippe a eu du mal à remplir sa salle, non mais il faut voir, je veux dire.
Le pacte de la politique.
Mais oui, soi-disant,
c'était
notre grand grand candidat 2027 pour voir comment il a du mal à remplir trois places dans une salle. Et le pape, il débarque, boum, Stade de France. Donc tu vois bien que les politiques,
voilà. Justement, moi, mon impression, c'est un peu pape superstar.
Ça te gêne?
Oui, ça peut me gêner. Ah. Du moins, en fait, j'attends de voir quel est le message. On ne sait pas pourquoi il vient, ou alors je suis passé à côté.
Je peux déjà te le délivrer si.
Si c'est la paix, aimez-vous.
Oui,
non, mais d'accord, très très bien. Mais donc c'est le pape superstar. T'as pris tes billets pour aller voir un spectacle. En fait, moi, je suis un petit peu triste de cette Église catholique qui n'a plus de message très construit. Et pourquoi il vient en France? Il faut savoir pourquoi. C'est pas juste une tournée de stars. Et tu faisais le comparatif avec Céline Dion. On a l'impression que ça ressemble un peu à ça. Le pape, ça peut pas être ça. Le pape, il doit venir dire « Je viens en France pour telle raison, pour porter tel message, pour travailler sur tel sujet. »
Ce sera un message d'espérance, ce sera un message aussi pour dire « Non aujourd'hui,
dire de voter,
non à la guerre,
mais ça va être ça. »
Je sais que tu voudrais des messages guerriers, etc., mais c'est pas ça.
Je te dis
que le pape...
Stop à l'immigration, lance la 8e croisade.
Vous comprenez pas. En fait, ça pourrait être un sujet. Face à la place toujours prépondérante de l'islam, réaffirmons nos valeurs universelles, catholiques, etc.
C'est incroyable.
Mais ça n'existe pas, ça fait partie de l'Église.
Vous ne vous rendez pas compte que l'erreur de l'Église catholique, c'est d'avoir délivré depuis des années un message insipide. Ouais, c'est un truc de midinette, quoi. C'est bien, on va aller écouter le pape, il va dire faites pas la guerre, soyez gentils avec les autres.
Mais ça fait longtemps que tu n'as pas parti à l'Église. Depuis quand à l'Église tu t'assois et on te parle d'une autre religion? Du judaïsme, de l'islam? Non, au contraire, on veut raviver ta foi dans le christianisme. Donc là, moi,
à l'église, alors je vais te parler du clergé du Nord-Pas-de-Calais où on m'a bassiné, accueillez le migrant comme votre frère, etc. Ça n'a rien à voir avec ce pourquoi tu crois.
Didier, non, moi, je, en dehors de ces considérations sur le fond, moi, sur la forme, je suis quand même un peu. Enfin, je sais pas comment faut dire, surpris. Enfin, que dans le pays où il y a le plus d'antidépresseurs, c'est le pays où il y a le plus de conversions à l'islam, c'est le pays où le pape remplit le Stade de France en 3 minutes. Et donc, je m'inquiète sur où va notre société et ce retour vers le religieux. Après, force est de constater que ce pape-là, précisément, plaît aux jeunes, sait parler aux jeunes. Et moi, j'écoutais des reportages ce matin. Les gens qui ont réservé les billets, qui sont battus pour avoir des billets, c'est des jeunes, quoi. Donc voilà, ça en dit, je pense beaucoup sur l'espoir qu'ont les jeunes en l'avenir, quoi.
Les lunettes anti-éclipse ou pour regarder l'éclipse plutôt en pénurie.
Les lunettes anti-éclipse, elles sont en taux.
Tu mets tes lunettes, l'éclipse, elle disparaît.
Et tu vois plus rien. Les lunettes pour regarder l'éclipse en pénurie, donc à la veille de cette fameuse éclipse, on s'en fout pas, Antoine.
Oh, on s'en fout.
Didier.
Bon, ouais, on s'en fout un peu, mais on s'en fout pas complètement.
D'accord, Joël.
Non, on s'en fout.
Ah, on s'en fout. Bon, pour Didier, alors très rapidement.
Non, mais très rapidement, je trouve ça.
Il faut la regarder, donc les deux.
Je trouve ça complètement débile qu'on crée tout un business là-dessus. J'ai écouté des ophtalmos qui savent déjà qu'ils auront des consultations le lendemain. Enfin, tu vois, les gens sont débiles, quoi. T'as pas de lunettes, tu regardes pas l'éclipse, voilà, c'est tout. Après, que ça soit un événement. Important parce que finalement la prochaine on la verra pas hein.
Elle sera en 2082
je crois donc enfin moi je pense
ah,
que
tu seras pas frais,
c'est cramé pour l'avoir après derrière ça moi j'ai mon masque de soudure, j'ai vérifié la protection est au-dessus de 14 donc normalement c'est bon. Après que les gens soient fait un peu prendre et qu'ils aient pas anticipé le truc et qu'aujourd'hui ils courent partout chercher des lunettes. Enfin, je trouve ça un peu débile, voilà. J'ai vu aussi cette fabuleuse image où les gens allaient prendre le soleil pile poil dans l'arc de triomphe, là. C'était ces jours-là. Et le lendemain, c'était couvert, dommage. Ils ont dû boucher la circulation. Il y avait des milliers de personnes sur les Champs-Élysées pour prendre le soleil.
Non, mais. Et c'est toujours un moment exceptionnel.
Le côté neuneux des gens, ça fait
tu la regarderas pas, Joël?
J'ai regardé celle de 99.
Voilà, moi,
j'en ai vu une, donc c'est pas la
première. J'ai couru, ça va se ressembler. J'ai cherché mes lunettes, on s'est rassemblés entre filles, je me rappelle. Avec mes copines et tout. Bon, J'en garde pas un souvenir.
C'est un peu décevant comme spectacle.
Voilà, exactement.
On enchaîne.
Pour que ça soit pas décevant, faut vraiment être au cœur de, c'est-à-dire
là où c'est
plus bas qu'en haut, vers Bilbao, par là. Quand t'es à 100%, 99. Ouais.
Après, je prends mon train tout de suite.
Voilà, hein. Voilà. Bon, c'est intouchable. Hein. Les nuits là-bas sont à des milliers d'euros pour le soir de l'éclipse et tout. On va finir avec un sujet un peu plus léger. 37% des Français utilisent l'intelligence artificielle pour draguer. On s'en fout, on s'en fout pas, Joël.
On s'en fout pas.
Didier.
On s'en fout pas.
Et Antoine.
On ne s'en fout pas.
Selon une étude pour Nation IA, 37% des Français ont laissé l'IA draguer à leur place, principalement pour rédiger ou améliorer un message à une personne qui leur plaît, ou pour trouver de quoi répondre quand ils ne savent pas quoi dire. Didier, t'as utilisé l'IA, toi, un peu, pour
non,
draguer?
Non, du coup, je vais lier ça au premier sujet, quoi. Voilà. Le pape, il remplit le Stade de France en deux minutes et on a besoin de l'IA pour draguer. Voilà où on en est rendu dans la vie. Et je trouve quand même que c'est d'un pathétique qui me ferait pleurer, quoi.
Voilà. Joël,
les jeunes ont besoin d'une appli
Joël,
pour draguer.
Joël, mets un peu de mesure là-dedans.
Ça me ferait pleurer.
Ouais, je peux pas parler, j'ai besoin de l'IA pour manger, pour dormir, ouais, ben pour faire du sport. Je l'interroge sur tout.
À quelle heure
je dois manger.
Indirect aussi, hein.
Non, je m'interroge pas.
Parce que pour faire tourner les data centers,
il y a toujours des gens comme toi qui veulent nous empêcher de vivre. Ben moi, je vis avec l'IA. Donc, non, ça m'a fait. Non, mais attends, on a eu toute une génération à qui on a dit qu'il fallait plus draguer, que c'était pas bien, etc. Donc, ils ne savent plus, ils ont plus les codes, tu vois. Par exemple, quand je regarde la série Mad Men, tu vois, là-bas, ils ont les codes. En 1960, ils savent comment draguer une femme, etc. Alors, bien sûr, si on le regarde aujourd'hui, on se dit, oulala, c'était quand même... Mais il y a toute une génération qui a perdu cette habileté. C'est une habileté de savoir aborder une femme, la faire rire, alors qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et qu'elle te lâche un numéro. C'est une habileté relationnelle. Donc, je comprends qu'ils puissent s'appuyer sur l'IA pour retrouver ces compétences perdues dont on a besoin, nous, les femmes. Bah oui, il y a plein de femmes célibataires. Quand j'étais célibataire, bah, c'était désert parce qu'il y a personne qui vient te parler, qui t'ouvre la porte. Ouh là là, faut surtout pas lui parler. Bah, attends. Fatigué.
Oui, t'as pas besoin de l'IA. Enfin, tu t'appelles un peu à ton imagination, à ton sens de l'observation.
Oui, mais ça, c'est.
Tu te lances.
Mais t'avais.
Et sinon, ça veut dire mode d'emploi. Tu sais, tu demandes à l'IA, voilà. Je suis à côté d'une jeune femme. Elle est coach de vie. Elle est plutôt dynamique. Bon, qu'est-ce que tu me conseilles?
Elle s'appelle Ingrid. T'avais des modèles. C'est pas vrai, t'avais des modèles. Ça se trouve, tu regardais Belmondo qui faisait tac-tac, boum-boum, et tu te disais, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu regardais la boum, et tu te dis, ah, c'est comme ça qu'il faut danser le slow. En fait, t'avais des modèles. Aujourd'hui, va regarder une série, t'as pas de modèle, désolé.
Allez, restez avec les GG dans un instant.
La tentation, les modèles sont.
Dans un instant, certaines villes refusent désormais les permis de construire pour les piscines. Est-ce qu'elles ont raison? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.